Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire du monde, où de tout temps et partout, des hommes en ont dominé d'autres pour des raisons économiques, politiques, idéologiques. Une conquête à tout prix, quitte à spolier, torturer, mutiler, violer et tuer. Des pans sombres de la grande histoire, parfois connus mais souvent niés, et qui, grâce à la littérature, remontent à la surface avec leur cortège d'horreur. C'est le sujet de notre invité aujourd'hui, qui travaille depuis plusieurs années sur une des illustrations les plus macabres de l'impérialisme, à savoir la colonisation sur le continent africain, et particulièrement celle du Congo, par la Belgique, comme en témoigne son nouveau roman intitulé « Notre royaume n'est pas de ce monde » aux éditions Albin Michel. Bonjour Jennifer Richard.
Bonjour Catherine.
Ce volume s'inscrit à la suite de vos deux précédentes fictions qui déjà prenaient à bras le corps cette question du sang versé pour de l'argent. Et d'ailleurs, de nombreuses figures historiques circulent d'un livre à l'autre, à commencer par Ota Banga, un pygmée qu'on a découvert dans « Il est à toi ce beau pays » et que l'on retrouve ici en maître de cérémonie dans un dispositif narratif très particulier dont nous parlerons plus tard. Et il se rappelle ici, entre autres, comment, après le massacre de sa famille dans sa forêt natale, il a été enlevé de son continent africain pour devenir un temps bête de foire aux États-Unis où finalement il s'est suicidé à l'âge de 33 ans. Voici que vous reprenez le fil en 1896. Que vouliez-vous ajouter, préciser dans ce troisième volet de votre fresque ?
Le premier tome, c'était le temps des explorateurs, des aventuriers. C'était le temps du colonialisme romantique, en quelque sorte. Et là, on passe au volet administratif. Là, on est dans l'administration et l'exploitation du territoire et des hommes. Donc, le temps des héros est passé. Le temps de la splendeur de Brazza, de Stanley Livingstone est derrière nous.
Et les explorateurs.
Les explorateurs ne sont plus à la mode. On est dans une époque où il faut faire de l'argent. Maintenant, il faut prouver. Il faut prouver que ces territoires sont rentables. On s'est battu pour les avoir. Quand je dis « on », ce sont une poignée d'hommes sur le terrain qui étaient aux ordres des hommes politiques et des chefs d'État. Donc maintenant, on doit administrer les territoires et on doit en tirer la plus rentable des substances. Donc, les héros sont plus à la mode et Brazza est complètement mis sur la touche parce qu'il refuse de signer les contrats de concession pour les sociétés privées. Il ne s'est pas battu pour ça, il s'est battu pour la France. Il se rend compte qu'il a été berné.
Alors, on va poser le contexte géopolitique. Donc ici, le récit commence en 1896. À cette époque, Léopold II est le roi des Belges et il s'est proclamé aussi roi du Congo, où il fait commerce du caoutchouc, de l'ivoire, de l'huile de palme et autres matières premières dans des conditions meurtrières, sans oublier la ligne de chemin de fer qu'il fait construire pour rapatrier ses marchandises. Et est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler, Jennifer Richard, le tribut surhumain que doit payer la population locale ?
Les chiffres sont évidemment pas très connus parce que la documentation est pauvre et est très floue à cette époque. Mais certains auteurs, certains historiens ont évalué les pertes de la population congolaise à 10 millions de personnes. Et en plus de ces millions, en tout cas de victimes qui sont mortes, il y a énormément de personnes qui ont été mutilées. Il y a le problème démographique que ça engendre, qui fait qu'aujourd'hui encore, la République démocratique du Congo n'est pas très peuplée pour un pays d'Afrique. Et voilà, ça a fait une saignée terrible sur la jeunesse, sur la vigueur de ce pays. Mais je tiens à préciser qu'on a fait à peu près la même chose sur tous les territoires d'Afrique. On a fait la même chose en Amérique du Sud, on a fait la même chose en Asie. Moi, je me suis focalisée sur ce territoire par le hasard de mes recherches et de mes rencontres littéraires. Mais c'est vraiment un exemple parmi d'autres dont je veux témoigner.
Expropriation, spoliation, maltraitance, viol et main coupée. Pourquoi ?
Alors, c'est vrai que c'est un élément absolument terrible qui apparemment est totalement illogique. Et même Léopold de lui-même, qui n'est pas responsable directement de ça, même s'il a eu connaissance de cet élément, mais n'y croyait pas en disant « mais pas couper les mains de mes travailleurs quand même, c'est absurde ». Mais puisqu'il faut être rentable et qu'il faut vraiment mettre la population au pas, et qu'en plus, les personnes qui gèrent la surveillance des travailleurs sont généralement donc la force publique, l'équivalent belges, des tirailleurs sénégalais qu'on avait dans les territoires français, sont issus de tribus souvent hostiles aux planteurs locaux ou aux récoltants. Et on leur donnait des fusils, très peu, on leur donnait peu de fusils, on leur donnait une balle pour faire respecter l'ordre. Donc s'ils dépensent les munitions, il faut qu'ils prouvent que c'était vraiment nécessaire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils prouvent qu'ils ont dû tuer la personne. Donc pour prouver que la personne était décédée quand ils ont utilisé leurs munitions, eh ben, ils coupaient les mains pour dire « bah voilà, il est mort ». Donc la preuve, je lui ai coupé la main.
Sauf que là, ils coupent des mains de personnes vivantes.
Mais voilà, parce qu'en effet, ils tirent aussi pour faire respecter l'ordre. Ils tirent parce que l'alcool coule à flot, parce qu'en effet, ce commerce avec les populations locales, avec ces pays-là, le commerce en fait se résume à envoyer de la camelote, des armes et de l'alcool. Et nous, rapatrier le caoutchouc, l'huile de palme, le cacao, le café plus tard. Mais il y a très peu de moyens vraiment qui sont investis sur place. Enfin, à cette époque-là, il y a zéro moyen, à part ces pauvres fusils et ces soldats de la force publique qui sont souvent très hostiles aux tribus, qui sont souvent ivres et donc qui tirent parfois. Et donc, pour prouver qu'ils ont tiré à bon escient, ils coupent les mains.
Et donc, dans cet enfer que vous racontez par bribes, parce que c'est vraiment une mise en place de plusieurs voix qui se répondent, et encore une fois, on va y revenir dans un instant. Dans cet enfer, donc, qui commence à être un peu su à l'extérieur du continent, effectivement, va commencer un réveil de conscience pour un certain nombre de personnes. D'abord, celles qui sont témoins de ces horreurs. Il y a par exemple ce couple de missionnaires dont la femme va photographier, documenter les mains amputées des enfants, des femmes et des hommes. Photo qu'elle ira ensuite montrer lors de conférences aux États-Unis, à la plus grande horreur évidemment des spectateurs. Et puis d'autres voix vont peu à peu s'élever, parmi lesquelles en effet les explorateurs que vous avez cités, par exemple le français Pierre Savornian de Brazza. Il va y avoir des journalistes, des écrivains, nous y reviendrons, au point qu'une association va bientôt se créer. Est-ce que vous voulez bien nous raconter la naissance de cette grande et peut-être première cause humanitaire.
En effet, c'est la première campagne internationale pour la sensibilisation sur un thème humanitaire. Et on assiste à quelque chose qui a une ampleur incroyable. Ça dure 5-6 ans. Le temps que les missionnaires recueillent les preuves, en effet, ces photos qui sont terribles. Donc les missionnaires, le couple des Harris qui prend des photos, les Shepherds aussi prennent des photos. Et tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui encore sur Internet, ce sont ces missionnaires qui les ont prises, avec quelques autres que je n'ai pas pu évoquer malheureusement, faute de place et de temps, comme vous pouvez imaginer, j'ai déjà trop de personnages. Donc ces photos vont circuler et l'association va être créée par Roger Casement et Edmond Morel, au départ, qui vont essayer de rameuter Joseph Conrad. Mais voilà, Conrad ne voulait pas. Il avait déjà vu trop d'horreurs et il savait, en fait, il avait l'intuition que ça ne servirait à rien, donc il a préféré ne pas s'impliquer. Mais ils ont réussi à impliquer Mark Twain, Arthur Conan Doyle, Booker T. Washington, en France, Anatole France, Charles Péguy se sont fait les relais de cette campagne. Donc il y a vraiment eu mondialement des échos de la part d'intellectuels, d'industriels. En Angleterre, il y a Cadbury, le chocolatier, l'industriel de la marque de chocolat qui s'est impliqué également. Voilà, de tous ordres, des personnes de plusieurs pays, de plusieurs couleurs, de plusieurs sexes, de plusieurs convictions qui se sont mises ensemble, qui se sont rassemblées pour mettre fin au règne de Léopold II au Congo.
On va la citer, cette association Congo.
La Congo Reform Association, voilà. Qui est devenue en France l'association de réforme pour le Congo. Il y a eu l'American Congo Reform Association aux États-Unis qui organisait des conférences dans le monde entier, donc avec les écrivains que je citais. Les projections de photos, qui récoltaient des dons pour faire vaciller les choses.
Mais au final, est-ce que cette association, elle a eu un vrai impact ?
Je pense qu'elle a eu un petit impact. En fait, non, je ne pense pas vraiment.
Mais oui, parce que face à ces gens qui essayent d'alerter et de motiver les populations, on voit bien que ça ne pèse pas très lourd dans la politique et le parcours que continue de mener presque manu militari Léopold II,
bien
qui
sûr.
Est un de vos personnages les plus truculents d'ailleurs de ce roman. Lui, c'est un impérialiste et il n'en fait rien de cette association.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis partagée, hein, comme tous mes personnages, je suis partagée entre la nécessité d'agir, la nécessité de s'indigner et la conscience que quoi qu'on fasse, en fait, que faire face au capital ? Le capital est toujours plus fort, plus grand que nous. Léopold II a revendu le territoire congolais à la Belgique à un prix.
Mais comment c'est possible ça? Mais il était propriétaire de cette terre congolaise.
C'était son entreprise privée. C'était son entreprise privée au sein de laquelle il y avait une autre entreprise privée. Il avait découpé le territoire congolais en plusieurs entreprises, en fait, plusieurs concessions. Ce qu'on faisait en France, mais pour le coup, en France, ça appartenait à différentes sociétés, ce qui est déjà scandaleux. Mais là, tout était quasiment à Léopold II, avec au sein de ce territoire le domaine privé de la couronne, où là, personne ne savait ce qui se passait. C'était pire que Las Vegas. Vraiment, ce qui se passait dans le domaine de la couronne restait à tout jamais dans le domaine de la couronne. Et tout était permis. Donc Léopold II revend ce territoire à prix d'or à la Belgique. Et les revenus se sont transformés en villas de luxe sur la côte d'Azur, sur la côte belge, en particulier pour faire plaisir à Blanche de la Croix, sa favorite. Et donc les choses n'ont pas énormément changé à la passation, notamment on découvre du cuivre dans la région du Katanga. Donc la ville, Elisabethville, a été fondée après la mort de Léopold II. Donc ça, c'est pareil, un territoire où se sont passées des choses terribles après la mort du roi. Donc non, ça n'a pas changé. C'est pour ça qu'en fin de premier chapitre, je reprends une phrase de Che Guevara qui est « Ceci est l'histoire d'un échec ». L'histoire de l'échec de Che Guevara, c'est l'exergue de ses carnets du Congo, quand lui est allé faire la guérilla au Congo pour chasser les indépendantistes, les contre-indépendantistes qui luttaient contre Lumumba et qui ont eu sa peau. Voilà, Che Guevara est arrivé après avec une troupe de Cubains pour essayer de redonner le pouvoir aux indépendantistes, justement. Mais ça n'a pas marché. C'est des histoires d'un échec. Et cette association, c'est l'histoire d'un échec aussi.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, dont l'invité aujourd'hui est Jennifer Richard, qui vient de publier « Notre royaume n'est pas de ce monde » aux éditions Albin Michel. On l'a entendu, une plongée extraordinairement documentée et romanesque qui, sur une trentaine d'années et sur trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, nous rappelle l'histoire, les histoires tragiques des populations écrasées par d'autres, et ici en particulier celle du Congo sous l'emprise du roi des Belges, au nom duquel sont volées les richesses du pays et assassinés les habitants. Un récit raconté par un pygmée, Otto Benga, qui s'adresse non seulement aux lectrices et aux lecteurs, mais surtout à une assemblée où, dans une dimension parallèle, puisqu'en effet ils sont tous morts, vous convoquez une centaine de personnalités des plus célèbres qui ont toutes et tous eu un geste politique ou révolutionnaire et qui surtout ont comme point commun d'avoir été assassinés. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques exemples et ensuite nous expliquer l'idée de ce chorus, Jennifer Richard ?
Par exemple, dans cette assemblée, évidemment, il y a Brazza. Brazza est là parce que la femme de Brazza était persuadée qu'il avait été assassiné, qu'il avait été empoisonné parce qu'il avait trop de choses à dire. Et en effet, en 2014, vous savez, est sorti le rapport Brazza que l'historienne Catherine Kokré-Vidrovitch a exhumé d'une bibliothèque au Gabon. Il avait énormément de choses à dire. Il n'a pas tout dit parce que ce rapport qui est aujourd'hui accessible a déjà été très expurgé de la version initiale. Donc Brazza est présent dans l'Assemblée. Roger Casement est présent également parce qu'il a été pendu.
Alors lui, c'est un Irlandais. Il faut peut-être un peu repréciser qui est qui d'ailleurs et qui a fait quoi.
Alors, si vous voulez que je précise qui est qui pour
rapidement,
chaque...
Rapidement. Non, mais on ne peut pas citer la...
On ne peut pas citer tous.
Les 100, mais les premiers qui vous viennent à l'esprit.
Alors voilà, Roger Casement, comme on l'a évoqué, est un des fondateurs de l'association de réforme du Congo. C'est un Britannique, mais avant tout, c'est donc un Irlandais qui a tout mis de côté pendant des années, qui ne se rendait pas compte qu'il était Irlandais. C'était un diplomate britannique au Congo de Léopold. Et il a dénoncé les exactions dans un rapport que Rosa Luxembourg a lu, que Karl Liebknecht a lu. C'est pour ça qu'ils sont aussi présents dans l'Assemblée. Il est ensuite envoyé au Pérou, entre le Pérou et le Brésil. Et là, il se rend compte que c'est la même chose. Même exploitation du caoutchouc par des indigènes. Pareil, on mutile, on prend des otages en attendant que les récoltes soient suffisamment conséquentes. Il fait un rapport, l'Angleterre dit « Ah oui, alors là, ça nous concerne, c'est beaucoup moins rigolo. » Moi, tout de même, il est reconnu, il est anobli. Et le problème, c'est qu'arrive la guerre. Là, il rentre chez lui, c'est la retraite.
Donc, et il va se rallier aux Allemands pour le faire court et être
pour
pendu.
Pour son grand malheur.
Voilà, pendu pour
haute trahison.
Alors, quelques autres noms, rapidement.
Alors, nous avons Saddam Hussein qui a été pendu, lui aussi.
Oui, alors justement, alors puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite. Il y a parmi tous ces gens qui ont été assassinés, Kadhafi, Saddam Hussein et Ben Laden. C'est quoi leur place ici?
Alors, leur place, alors ce sont des personnes qui se sont insurgées à un moment de leur vie contre l'impérialisme. Ça paraît étonnant puisque ce sont par la suite devenus des empereurs pour Kadhafi et Saddam Hussein. Mais au départ, ce sont des hommes qui ont voulu chasser les pouvoirs impérialistes qui exploitaient les richesses. Et quand ils sont arrivés, ils avaient une position socialiste et ils voulaient que les richesses, les revenus du pétrole reviennent à la population. Ce qui a été le cas pendant les premières années de leur règne respectif. D'ailleurs, ces deux hommes sont morts tous les deux à 69 ans. Ils ont été tués à peu près avec le même manque de respect. Et je me suis aussi attachée à la façon dont tous ces hommes sont morts dans l'Assemblée, à la façon dont on les a privés de dignité pour beaucoup. Alors pour tous les indépendantistes africains, ça a été terrible. Il y a eu des massacres pas possibles. Il y a eu des personnes dont la mort a été filmée. Ça aussi, ça m'intéressait de voir qui a une tombe, qui n'en a pas, qui a été jeté dans la mer, qui a eu des obsèques, qui n'en a pas eu. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Pour Ben Laden, c'est une figure dont on se sert, dont l'Occident se sert pour lutter contre un autre ennemi. Puis c'est lui qui devient l'ennemi. C'est lui qui se retourne contre la personne qui l'a financé et qui finit par retourner le pays. Il y a un nouvel ennemi à chaque fois, en fait. C'est ça que ça montre, c'est qu'il y a toujours un ennemi à combattre. L'Occident est toujours en guerre.
Alors, comme on ne peut pas tous les citer, j'aimerais maintenant que vous nous expliquiez, Jennifer Richard, pourquoi est-ce que vous avez convoqué toutes ces personnes dans ces parties romanesques, là de fait, qui dialogue autour de ce que Otabanga raconte, et comme si c'était d'ailleurs une histoire, un conte réel, l'histoire du Congo qu'il partageait avec tous ces gens. Pourquoi ce dispositif narratif ?
C'est pour vous épargner un troisième tome, tout d'abord. Parce qu'en
ou
fait,
quatrième, vous voulez dire
Troisième, oui. Alors oui, je ne comptais pas Basil Zaroff dans ces deux volets qui sont vraiment la même histoire, même si le thème et le propos sont les mêmes. Mais je voulais vraiment tirer l'histoire jusqu'à nos jours, en fait. Je voulais vraiment montrer que cette histoire n'est pas une histoire de colonisation, parce que ça nous marque dans le temps, ça nous réduit dans le temps et dans l'espace. Alors que pour moi, l'impérialisme, là, on est de tout temps, de toute époque, de tout régime. Et j'ai préféré convoquer ces personnalités qui sont plus ou moins contemporaines pour qu'ils aient un regard sur cette histoire et qu'ils commentent. Parce qu'en fait, ils ont tous quelque chose à dire là-dessus. Ils sont tous liés à cette histoire. Ils ne sont pas convoqués par hasard. Ils sont tous liés à un personnage, à un pays. Ils ont tous des points communs entre eux. Donc, ils sont là pour commenter cette histoire et montrer à quel point c'est toujours d'actualité de leur vivant à eux. Donc, on a Thomas Sankara, par exemple, qui est mort en 87. On a Martin Luther King, Malcolm X, qui étaient antagonistes et qui finalement se sont vraiment rapprochés juste à la fin, juste avant que Malcolm X meure. Il avait les mêmes positions que Malcolm X et que Martin Luther King, il était très proche de lui.
Et s'il y a une accolade d'ailleurs.
Mais oui, je me dis, mais il aurait manqué peut-être 2-3 ans et ça se passait comme ça. Ils étaient vraiment très proches. Le point commun, c'est la lutte contre la guerre. Ils se sont tous les deux érigés contre la guerre au Vietnam et c'est pour ça qu'ils ont été tués. Et tous ces personnages sont inspirés par Gandhi. Gandhi est présent dans l'Assemblée aussi, assassiné en 48. Ils sont beaucoup inspirés par Gandhi. Steve Biko a été inspiré par Gandhi. Thomas Sankara, le fait de filer soi-même ses vêtements, ça lui venait de Gandhi. L'indépendance du vêtement, l'indépendance dans l'assiette. L'impérialisme commence dans l'assiette. Il faut être indépendant à tout niveau. Il ne faut pas tendre la main, il ne faut pas avoir à tendre son écuelle. Il faut être indépendant en tout. Ils ont tous ça en commun.
Et une seule femme, Rosa Luxembourg, parce que c'est la seule femme qui a été assassinée dans l'histoire.
La seule femme. Mais quelle femme ! Cette femme est tellement merveilleuse.
Évidemment, on ne revient pas là-dessus. Mais est-ce que c'est la seule femme qui a été assassinée ?
Non, ce n'est pas la seule femme qui a été assassinée, mais c'est lié à mon histoire, la seule femme qui a été assassinée pour ses idées anti-impérialistes. Donc voilà, Rosa Luxembourg, elle est là parce qu'elle a vraiment sa place. Et j'en ai pas trouvé d'autres de cette ampleur-là qui étaient liées à mon histoire.
En tout cas, il y a une autre femme aussi que moi j'aime beaucoup, c'est Blanche, la maîtresse de Léopold II, dont vous faites un portrait, Jennifer Richard, absolument mais hilarant. Elle a existé, on le sait, mais est-ce qu'elle a été aussi pittoresque que ça ?
Si vous saviez, elle a écrit ses mémoires, figurez-vous.
J'ai vu dans la bibliographie qu'elle avait commis un livre.
Alors, elle a fait commettre un livre, probablement, oui. Bien sûr, mais elle ne se cache de rien. Moi, je n'ai rien inventé parce que je ne voulais pas charger la mule encore plus. Il y a trop à dire. Donc, Blanche est terrible, mais je vous assure, je n'ai rien inventé pour Blanche.
Alors, c'est le moment de dire justement à quel point votre écriture est incroyablement fluide. Que ces 700 pages, Jennifer Richard, et j'imagine qu'il y en avait beaucoup plus peut-être dans d'autres versions précédentes, se lisent étonnamment vite, que toute la structure du roman qu'on a sans doute perçu avec ce que vous venez de dire est diablement élaborée, les lieux, les époques, les personnages, tout s'enchevêtre et en même temps ça ne ralentit jamais l'envie d'avancer, de vous suivre. Mais néanmoins, j'imagine que vous avez dû faire un travail de mise en place d'architecte extrêmement compliqué, non ?
Exactement. J'ai travaillé comme certains cinéastes. En fait, je me suis vraiment fait un storyboard. J'ai pris une planche de carton d'1m50. J'ai tracé des lignes. J'ai fait des encoches à chaque événement à traiter. J'ai fait les lignes chronologiques de chaque personnage pour voir qui était contemporain de qui avait rencontré qui. Et là, c'est apparu, mais vraiment, c'était comme une toile d'araignée, mais ça m'est apparu. Mais c'était incroyable. Je me suis trouvée face à ça. Je me suis dit, mais c'est formidable d'avoir tous ces personnages qui se sont connus, qui ont vraiment des points communs. Et finalement, de même pas avoir besoin, moi, d'inventer quoi que ce soit, parce que tout est là. Cette histoire, elle est complètement dingue. Ces personnalités qui n'avaient rien pour se rencontrer se sont alliées. Même le fait de voir qui admirait qui dans cette assemblée, j'ai été bouleversée, moi, de découvrir tous ces personnages au fil du temps.
Parce que ce qui est bluffant, Jennifer Richard, c'est que vous n'êtes pas du tout historienne de formation. Vous êtes écrivaine, vous êtes romancière. Et là, en quelques livres, vous vous êtes approprié une somme d'informations. Mais c'est absolument phénoménal. Qu'est-ce qui vous lie ? Qu'est-ce qui vous touche à ce point ? Pourquoi est-ce que vous allez dans cette aventure, dans cette galère ?
Mais oui, qu'allait-elle faire dans cette galère ? C'est fou, mais non, mais ça va sonner tellement banal ce que je vais dire. Mais en fait, j'ai été avant Il est à toi ce beau pays, j'écrivais des romans, de la fiction. Alors ceci dit, mon troisième roman était déjà très historique, et je commençais à être gênée par le discours politique, par le décalage entre le discours politique, ce qu'on peut lire dans les journaux aujourd'hui, dans tous les médias, et la réalité des faits. Et j'ai voulu développer de plus en plus une approche vraiment matérialiste de l'histoire, c'est-à-dire en voyant les intérêts à chaque fois derrière chaque action. Et je me suis rendu compte que les grandes envolées, les grands sentiments, ils sont présents chez les individus, chez certains missionnaires, chez certains explorateurs. Mais dès qu'on est au pouvoir, dès qu'on parle de l'action politique, il n'y a plus de pensée humanitaire. Ça n'existe pas. Et c'est ça que j'ai voulu dire. J'ai juste voulu montrer quelque chose. On le sait tous, on peut parler de n'importe quel sujet en disant « Mais oui, mais de toute façon, c'est pour le pétrole, c'est pour le gaz, c'est pour ceci, cela. » Et vous entendez toujours « Bah, on le sait, ça. » Mais on le sait, mais il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas accepter de payer des impôts pour financer les guerres, pour financer les prospections. Bon, enfin voilà, vous m'aviez dit la dernière fois que je suis venue, en parlant de le diable par toutes les langues, vous m'aviez dit en conclusion, mais en fait, finalement, ce livre, c'est un appel à la révolution. Mais là, encore plus, voilà. Ça, c'est vraiment un appel à la révolution, à l'éveil politique.
Oui, d'autant plus qu'il ne faut pas être grand clair et voir entre les lignes ce que vous dites aussi d'aujourd'hui. Parce que au caoutchouc, à l'huile de palme et à l'ivoire ont succédé évidemment le cuivre, le coltan ou le coltan, je ne sais jamais comment dire, et le nickel, que nos sociétés contemporaines utilisent et voire un abus total pour les appareils électroniques, à commencer par nos téléphones portables.
Bien sûr.
Donc ce que vous dites là, des années 1896 à 1916, ben, c'est encore aujourd'hui, rien n'a changé.
Mais ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais tant que le capitalisme sera non pas majoritaire dans la pensée politique, mais bon, sera dominant. Mais ça, c'est... Voilà, qui suis-je pour dire ça ? Je suis romancière et c'est comme ça que je peux m'exprimer sur ça. Mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est sûr. C'est non seulement les ressources qui sont importantes, mais c'est l'accès aux ressources. C'est-à-dire que les guerres sont menées non seulement pour exploiter un sol et parfois une population, quoique la population devient de plus en plus obsolète avec le capitalisme numérique, mais c'est l'accès, c'est-à-dire les gazoducs, les fleuves, c'est ça aussi sur laquelle il faut mettre la main. Et puis, bien plus que ça, au-delà des terres rares et de tous ces minerais qu'on évoque, il y a l'eau aussi qui va devenir un gros problème. Le sable est déjà une denrée qui commence à s'amenuiser, mais ça sera l'eau, ça sera l'air, donc ça n'aura pas de fin. En fait, tant qu'on monétisera des choses qui sont données par la nature, ça ne s'arrêtera jamais.
On voit ici que de nombreux écrivains cités dans votre roman, Jennifer Richard, pour leur participation de près ou de loin, ont eu quand même une action. Donc Mark Twain, évidemment, Conan Doyle, André Gide, avec son voyage au Congo, Albert Londres, sans oublier évidemment Joseph Conrad et son livre culte Au cœur des ténèbres, les intellectuels ont joué un rôle, peut-être mineur, mais en tout cas ont joué un rôle. Et vous, comme écrivaine, vous voulez avoir quelle partition ?
Moi, je suis juste, voilà, j'écris, je suis confortablement installée chez moi, le chat sur le clavier, qui est la seule distraction que j'ai dans la journée quand je suis au travail. Mais contrairement à tous ces personnages que j'ai cités, alors pas les écrivains que vous venez de citer, mais toutes ces personnalités politiques ou ces intellectuels, moi, j'engage pas mon corps. Moi, j'ai une vie très confortable et vraiment en sécurité. Donc, c'est super. Voilà, j'aurais vraiment tort, je serais très lâche de ne pas dire ce que je pense. Je ne fais que ça. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration pour toutes ces personnes que j'ai convoquées dans ce roman, parce qu'ils ont tous engagé leur vie. Ils le savaient. Ils savaient qu'au bout du chemin, il y avait la mort. C'est ça qui est incroyable, c'est que quand on est un chef d'État africain, on sait qu'on a une espérance de vie qui est quand même très, très faible. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit tableau Excel pour calculer l'espérance de vie des personnes que j'ai convoquées dans l'Assemblée. L'espérance de vie d'un anti-impérialiste, c'est 48 ans. Voilà, on a des hommes qui sont morts très jeunes. On a Lumumba qui meurt à 35 ans, comme Félix Moumier, 35 ans, Thomas Sankara, 37 ans. C'est incroyable, en fait. Des gens qui sont morts, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, 47 ans, c'est très jeune. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour... C'est un hommage à ces gens qui ont donné leur vie pour un combat qui était perdu d'avance, mais un combat qui continue, puisqu'on est encore en train d'en parler. Voilà, il faut parler et il faut agir.
D'où le titre aussi, Notre royaume n'est pas de ce monde, qui est une citation d'un évangile, n'est-ce
évangile
pas
de
Saint Jean.
Évangile selon Saint Jean, en effet. Mon royaume n'est pas de ce monde, et s'il était de ce monde, mes gens ne m'auraient pas livré. Oui, donc la victoire, elle n'est pas forcément de ce monde. On ne va pas assister à notre victoire si on a des idées, si on a un idéalisme. Mais ce n'est pas l'important. L'important, ce n'est pas de gagner sur terre, ce n'est pas de voir l'avènement de la vérité, de la justice. C'est une quête sans fin. L'important, c'est peut-être juste d'en faire partie, d'être dans ce courant qui va perdurer, d'être un porteur de cette petite flamme qui, jusqu'à présent, ne s'est jamais éteinte. Il y a toujours des gens pour parler, il y a toujours des gens pour s'insurger contre le pouvoir. Et c'est tout ce qu'il faut souhaiter, qu'il y ait toujours une conscience qui soit allumée quelque part.
Merci beaucoup.
Merci.
Jennifer Richard, je rappelle le titre de ce nouveau roman, Notre royaume n'est pas de ce monde, pareuse édition Albin Michel.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.